Le journal d'une certaine Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. La France et les crues, un phénomène voué à se reproduire, y compris dans le nord de la France, à cause du réchauffement climatique. Ces catastrophes climatiques auraient coûté 6,5 milliards d'euros aux assureurs français rien que l'année dernière.
Une nouvelle loi d'orientation pour l'agriculture est présentée aujourd'hui. Elle doit notamment favoriser l'accès à l'eau pour les agriculteurs.
Et puis nous retournerons à l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de Gaza, dévasté après 12 jours d'opération de l'armée israélienne. Après ce journal, Marguerite Caton, votre question du jour.
Les écoles privées doivent-elles être mieux contrôlées ?
Un printemps de crue dans des régions où l'on n'y était pas forcément habitué. Après une fin d'hiver où les inondations ont ravagé plusieurs communes des Hauts-de-France, c'est le centre et désormais la Bourgogne qui sont touchés ces derniers jours par des crues d'une rare intensité. Des petits cours d'eau qui, sous la pression de pluie, drue et continue, se transforment soudainement en torrents. Lyon reste ainsi en vigilance rouge ce matin face au niveau exceptionnel de certaines rivières. Et désormais, ces épisodes ne se limitent plus à la zone méditerranéenne, mais devrait, sous l'effet du dérèglement climatique, se répéter plus au nord. Véronique Reverotte.
C'est une des projections du projet Explore 2, initié par le ministère de l'Écologie. Il vise à évaluer les impacts du changement climatique sur le territoire français au niveau de la ressource en eau et les risques liés à l'eau comme les inondations et les crues. Avec, dans les décennies à venir, une probable aggravation des crues hivernales dans une partie nord de la France, explique Charles Perrin, hydrologue spécialisé dans la prévention des crues à l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.
Avec l'augmentation des températures à la surface du globe, le stock d'humidité atmosphérique sera plus important, puisque une atmosphère chaude peut contenir plus d'humidité qu'une atmosphère froide. Et donc, si vous avez plus d'humidité dans l'atmosphère, vous aurez probablement plus de précipitations. Donc c'est ce qu'on a vu sur les bassins du centre de la France et de Bourgogne là, qui ont réagi très fortement à des précipitations alors qu'étaient importantes, de l'ordre d'une cinquantaine de millimètres. Mais en fait, ces précipitations sont arrivées sur des sols qui étaient déjà très fortement gorgés d'eau. Les bassins versants, il faut les voir un peu comme des éponges. Quand ils sont saturés, en fait, ils vont avoir tendance à occasionner des ruissellements importants et des réactions importantes, ce qui a été le cas là dans les crues qui sont arrivées récemment.
Plusieurs équipes de recherche ont travaillé sur Explore 2. Leurs conclusions seront rendues publiques en juin prochain.
Et alors que les communes touchées attendent le reflux des eaux, le gouvernement, lui, promet qu'une procédure accélérée sera enclenchée pour que les collectivités tombent sous le coup du régime des catastrophes naturelles. Car ces événements climatiques font de plus en plus de dégâts quand elles ne font pas de victimes. Mi-mars, 8 personnes sont mortes lors de la tempête Monica qui avait frappé le sud-est de la France. Ces catastrophes climatiques ont d'ailleurs coûté 6,5 milliards d'euros aux assureurs français l'an dernier. Et on estime que les dommages liés au réchauffement climatique pourraient encore augmenter de 50% à horizon 2050. Et c'est justement hier que le gouvernement rendait publiques les conclusions d'un rapport sur les manières d'adapter au mieux notre système d'assurance à cette nouvelle donne du réchauffement, avec un risque en particulier à prévenir, Camille Magnard, que les compagnies d'assurance désertent certaines régions particulièrement exposées au risque de catastrophes naturelles.
Que l'on parle des tempêtes, de la grêle, des inondations, de l'érosion des littoraux ou encore de ces bâtiments qui se fissurent à cause de la sécheresse, la plupart du temps, les risques climatiques sont localisés à certaines régions où les catastrophes naturelles ont tendance à se répéter de plus en plus souvent et de plus en plus violemment. Il y a donc des zones rouges où les assureurs savent qu'ils vont travailler à perte. Et le risque, c'est qu'ils décident tout simplement de ne plus assurer de clients dans ces secteurs parce que ça leur coûte trop cher. C'est ce qui se passe déjà aux États-Unis, dans les États de Floride ou de Californie. Le rapport présenté hier par Bercy préconise donc une plus grande solidarité entre les régions plus ou moins exposées aux risques. Les assureurs pourraient, dans les zones rouges, consacrer moins d'argent à la prévention et plus à la couverture des sinistres de leurs clients. Le tout dans une enveloppe globale des fonds alloués aux catastrophes naturelles qui va augmenter puisqu'au 1er janvier prochain, la surprime catastrophe naturelle va passer de 12 à 20% du montant total de tous les contrats d'assurance. Le rapport préconise enfin la création d'un fonds dédié aux mesures individuelles de prévention, un fonds qui pourra permettre aux particuliers comme aux entreprises de faire diagnostiquer leurs biens et d'engager des dépenses pour s'adapter aux risques et mieux les prévenir, une sorte de prime de résilience climatique sur le modèle de MaPrimeRénov pour la rénovation énergétique des bâtiments.
S'il est un domaine qui participe au dérèglement climatique, tout en étant aussi un moyen de le limiter, c'est l'agriculture qui fait l'objet d'un projet de loi examiné ce matin en Conseil des ministres. Un projet de loi qui ne va pas franchement dans le sens d'une agriculture plus résiliente. C'est en tout cas ce que lui reprochent plusieurs associations environnementales. De fait, le texte a été proposé sous pression des agriculteurs mécontents qui réclament moins de réglementation et de normes environnementales, ainsi qu'un accès à l'eau facilité pour irriguer leur production victime de sécheresses inédites dans certaines régions. Car si dans les zones touchées par les crues, le niveau des nappes phréatiques devrait rapidement remonter, il est un département, les Pyrénées-Orientales, où la sécheresse dure depuis 2 ans et touche en premier lieu les agriculteurs, comme cet arboriculteur David Massot, membre de la FNSEA, qui attend beaucoup de cette loi agricole censée restaurer la souveraineté alimentaire de la France. Écoutez-le.
Personnellement, je trouve que la souveraineté alimentaire, c'est très important parce que dans mon métier, quand je vends normalement mes fruits, derrière, j'ai pas besoin d'un soutien hors norme de l'État. Je vends à un prix correct, j'arrive à payer mes salariés, mes intrants, et il reste de l'argent pour continuer à investir. Ensuite, il faut qu'on nous aide sur la gestion de l'eau, où à des moments, la lenteur et les complexités, je dirais, de l'agence de l'eau nous pénalisent dans tous nos projets. Donc dans la loi d'orientation, cette simplification-là, elle est importante, que ce soit pour l'eau ou d'autres sujets. Tout le monde demande un peu de simplification sur le travail. Aujourd'hui, voilà, moi, ma sensation, hein, mes clients demandent nos fruits, mais on a la sensation de plus arriver à produire. Aujourd'hui, on a mis en place beaucoup de cahiers des charges sur chaque enseigne. Je crois que tout le monde demande un petit peu de simplification.
Des propos recueillis par Catherine Pétillon, qui signe aussi le reportage de la rédaction tout à l'heure à 7h25 sur les solutions des arboriculteurs pour contrer l'absence de pluie. Une nouvelle formule pour tenter de dynamiser l'exercice des questions au gouvernement. Elle entre en vigueur aujourd'hui, inspirée du modèle britannique. En résumé, c'est le Premier ministre seul qui répondra aux questions des parlementaires au lieu des différents membres du gouvernement comme auparavant.
7h07 sur France Culture, c'est la suite du journal d'Anne-Laure Chouin. L'armée israélienne a reconnu une grave erreur après la frappe qui a tué 7 collaborateurs de l'ONG humanitaire World Central Kitchen dans la bande de Gaza.
Le drame a suscité une indignation internationale. Hier, le président d'Israël, Isaac Herzog, a présenté ses excuses sincères et fait part de sa profonde tristesse. Mais le conflit ne désarme pas. Et lundi, après 12 jours d'opération, les troupes israéliennes se sont retirées du complexe hospitalier Al-Shifa, le plus grand hôpital de Gaza, désormais jonché de cadavres. C'est la deuxième fois que les troupes de l'État hébreu lancent une offensive sur l'établissement, considéré comme un centre de commandement du Hamas. Thibault Lefebvre, notre correspondant à Jérusalem, a pu recueillir des témoignages de Gazaouis qui ont constaté le désastre.
Al-Shifa, c'est, ou plutôt c'était, le cœur de la ville de Gaza. Aujourd'hui, l'hôpital est en ruine. 3 des 4 ailes de ce vaste complexe dont les urgences et la maternité sont inopérantes. Et puis il y a les cadavres. Saïd, un habitant du quartier.
Il y a tellement de morts et ces images épouvantables de tous ces corps découverts après le retrait des forces israéliennes de l'hôpital Al-Shifa. On a trouvé des corps jetés au milieu des poubelles et des membres humains éparpillés partout.
Vision d'horreur. L'armée israélienne a annoncé pourtant avoir aidé plus de 6000 civils réfugiés dans l'hôpital à s'enfuir vers le sud de Gaza. Des affirmations impossibles à vérifier. Mohamed n'habite pas très loin et pour la première fois depuis le début de la guerre, il envisage lui aussi de partir.
Honnêtement, notre tristesse est absolue. Je suis abattu par l'ampleur des destructions causées par les forces d'occupation israéliennes. Elles se sont retirées de l'hôpital Al-Shifa et de toute la zone environnante. Nous aussi, avec ma famille, on voudrait s'en aller. Quitter Gaza serait un soulagement.
Pour l'armée israélienne, l'offensive sur Al-Shifa est un succès. Elle a compté 200 miliciens présumés du Hamas et du djihad islamique morts et près d'un millier d'arrestations.
Il y a 2 ans, le massacre de Boutcha en Ukraine, dans cette grande banlieue de Kiev, plus de 500 habitants étaient assassinés par l'armée russe. Dans le journal de 8h, nous reviendrons sur la vie dans cette ville martyre qui se cherche un avenir. Des crimes russes qui sont en train d'être documentés à La Haye, aux Pays-Bas, alors que Moscou traque toujours à l'intérieur de ses frontières les opposants au régime de Vladimir Poutine. Le sort des prisonniers politiques ne cesse d'ailleurs d'inquiéter la communauté internationale après la mort d'Alexei Navalny dans sa prison de l'Arctique. Et c'est maintenant le cas d'Oleg Orlov qui alarme ses proches. Oleg Orlov, 70 ans, fondateur de l'ONG Mémorial, condamné à 2 ans et demi de prison pour avoir dénoncé publiquement l'offensive en Ukraine. Comme Navalny, il avait choisi de ne pas quitter la Russie. Ses proches affirment que son état de santé s'est détérioré et qu'il n'a pas accès aux soins. À Moscou, Sylvain Tronchet.
D'après ses proches, Oleg Orlov a perdu une partie de l'audition ces derniers jours. Le septuagénaire a pris froid à cause des incessants allers-retours entre sa prison et le tribunal qu'un juge lui impose. Oleg Orlov attend parfois de longues heures dans les cellules du tribunal qu'on l'extrait pour pouvoir prendre connaissance de son dossier. En vue de son procès en appel, que le pouvoir serait pressé de voir se terminer rapidement. De fait, il ne mange quasiment pas de repas chaud et il a pris froid au point d'avoir des problèmes d'audition vu qu'il rentre trop tard du tribunal tous les soirs. L'administration ne lui permet pas de voir un médecin, ce que dénoncent ses proches, tout comme le fait qu'il ne puisse avoir aucune conversation privée avec son avocat. Le cas d'Oleg Orlov vient une nouvelle fois souligner la dureté des conditions de détention en Russie. Le cas d'autres prisonniers politiques est actuellement inquiétant, comme Vladimir Karamurza ou l'activiste Alexandra Skotchilenko, régulièrement cités tous les deux parce qu'ils ont de lourds problèmes de santé et n'ont pas ou peu accès aux soins.
Le nouveau président du Sénégal, Diomaye Faye, a nommé son premier ministre après son intronisation hier. Il a choisi Ousmane Sonko, son mentor, figure clé de l'opposition, ancien candidat lui-même à la présidentielle, avant d'être jeté en prison pour diffamation envers l'ancien pouvoir. 4 morts au moins et plus de 50 blessés à Taïwan dans un puissant séisme de magnitude supérieure à 7 près des côtes. 2 immeubles se sont effondrés près de l'épicentre. Désormais un tsunami redouté dans l'île mais aussi à Okinawa au sud-ouest du Japon ainsi qu'aux Philippines où l'ordre d'évacuer le littoral dans 23 des provinces de l'archipel a été donné. On termine ce journal sur un scandale de Rolex. Ça se passe au Pérou où la présidente Dina Boluarte est engluée dans l'affaire dite du Rolex Gate, donc des montres et des bijoux de luxe qu'elle n'aurait pas déclaré. Samedi, son domicile et son bureau du palais présidentiel ont même été perquisitionnés dans le cadre d'une enquête du parquet pour enrichissement illicite. Mais les enquêteurs ont fait chou blanc. Le parquet laisse entendre qu'elle aurait pu cacher ses bijoux chez des proches. Et le parquet donc pourrait désormais lancer une enquête pour obstruction à la justice. Lundi, la démission en série de ministres péruviens a encore accentué l'instabilité du gouvernement actuel, tandis que le Congrès doit voter ce mercredi l'investiture du gouvernement. Les détails de cette affaire avec notre correspondante à Lima, Amanda Chaparro.
Des montres de luxe de la marque Rolex, des bijoux Cartier, le tout estimé à plusieurs dizaines de milliers de dollars. L'affaire dite du Rolex Gate ne cesse de prendre de l'ampleur au Pérou. Lundi, 6 ministres ont démissionné, 1/3 du gouvernement. La présidente Dina Boluarte se pose en victime. Elle dénonce un complot dans une allocution devant la presse samedi, tout en évitant de répondre sur le fond de l'affaire.
Hermanas y hermanos peruanos, la presidenta viene siendo atacada.
Mes chers frères et sœurs, la présidente est attaquée systématiquement. Depuis quand une partie de la presse s'intéresse à ce que porte ou ne porte pas une présidente? J'espère que ce n'est pas du sexisme. Peuple péruvien, ayez confiance en cette mère de famille que je suis.
Dina Boluarte est déjà visée dans une enquête pour homicide et génocide pour son rôle dans la répression des manifestations de décembre 2022. À mars 2023, ayant entraîné la mort de 50 personnes. Elle est à présent visée par une enquête pour enrichissement illicite. Son ancien camp politique, le parti de gauche Pérou Libre, a déposé une motion de censure à son encontre, mais le Congrès, dominé par la droite, devrait faire barrage. Vendredi, la présidente est appelée à comparaître devant le ministère public pour expliquer l'origine suspecte de ses montres et tenter de désamorcer la crise.
Un mot du temps de ce jour en France. Les pluies se déplacent d'une au nord et à l'est, de même que l'onde de crue du soleil sur le sud-ouest et en Méditerranée. Ailleurs, rares éclaircies et fréquentes averses. Comptez 7 à 12 degrés ce matin, 14 à 23 cet après-midi. C'est la fin de ce journal et la suite des Matins de Culture avec vous, Guillaume Erner.
Eh bien, écoutez, merci Anne-Laure Chouin. Dans quelques secondes, la question du jour de Marguerite Caton. Les écoles privées doivent-elles être mieux contrôlées ?